La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale, je crois que sans se tromper, Félix Fournier, historien, on peut aussi dire qu'il y a la participation gaspésienne au podcast qui parle de cette participation-là, parce que tu as reçu beaucoup de courriels et de messages des gens qui t'arrêtent à l'épicerie pour te parler d'un ancêtre ou de quelqu'un de leur famille qui a participé à la guerre, ou même des gens qui ont des lettres en leur possession. Pour l'historien que tu es, ça doit être plaisant d'entendre tout ça.
C'est vraiment plaisant qu'on ait étiré. Bien, à cause de la pandémie, le podcast, la balado s'est construit sur beaucoup plus longtemps. Et ça a permis justement aux gens de nous contacter, de nous parler. Mais ils l'ont fait. Puis moi, à tous les fois, j'étais ému. J'avais l'impression de récolter justement des témoignages qui seraient disparus à court terme si ça n'avait pas été de ce moment-là où donner l'impulsion aux gens. Donc, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais qu'on allait faire au début.
Ouais, et là, on les immortalise, surtout ces témoignages-là, qu'on nous écoute en 2021 ou qu'on nous écoute dans quelques années. Ce sont des témoignages qui vont toujours être véridiques et empreints d'humanité de ces gens-là. Donc, merci à tous ceux qui ont communiqué avec toi.
Dans l'ensemble des témoignages que nous avons reçus, il y en a un qui m'a beaucoup touché sur le Facebook de Radio Gaspésie, qui vient de M. Marcel Castillo et qui nous parle de son père. C'est tout de suite après l'épisode sur le débarquement de Dieppe, dans lequel on mentionnait un monsieur de Sainte-Croix qui était le seul participant connu au débarquement de Dieppe. Eh bien non.
Il y en avait un autre.
Il y avait le père de M. Martel Castillo.
C'est un témoignage à l'écrit qu'on a reçu de M. Castillo. On vous le fait entendre narré par quelqu'un de notre équipe.
Mon père, Raoul Castillo de Newport, s'est engagé dans l'armée canadienne le 17 juillet 1940 alors qu'il avait 22 ans. Après l'entraînement de base à Valcartier, il est incorporé au fusilier Mont-Royal. Comme il était très bon tireur aux exercices, il a été désigné mitrailleur. Ce qui l'a déjà fait dire qu'il a regretté d'avoir voulu épater l'instructeur en disant que les cibles étaient faciles à atteindre. Plus tard, le régiment s'est embarqué pour l'Europe à partir d'Halifax sur le paquebot Pasteur. Arrivé en Angleterre, ils ont tous été envoyés sur l'île de Wight avec le reste du contingent canadien. L'entraînement y a duré 2 ans, puis il est parfois très dur, surtout les marches forcées avec tout l'équipement sur le dos. En 1942, mon père et son groupe sont soumis à un entraînement de commando en prévision d'une opération militaire en France. Le 18 août 1942, tout le monde est embarqué pour l'opération Jubilee, direction Dieppe. Comme tous savaient que l'effet de surprise était absolument indispensable, lorsqu'on rencontrait un convoi allemand et qu'un affrontement a eu lieu, mon père eut le mauvais pressentiment que les Allemands savaient maintenant qu'ils arrivaient et que si l'opération continuait quand même, ça serait très dur. Bien sûr, le raid a eu lieu quand même. En arrivant sur la plage blanche, endroit de débarquement des fusiliers Mont-Royal, le péniche de mon père a heurté un char d'assaut immergé dans l'eau et ils ont sauté dans 6 pieds d'eau. Et mon père a pensé se noyer avec sa mitrailleuse Bren dans les bras. L'eau était rouge de sang. Puis il a réussi à rejoindre la rive de peine et de misère en courant difficilement sur les galets. Il a rejoint son groupe dans le casino, en bordure de la plage. Comme les tirs allemands devenaient trop intenses, ils ont dû se replier vers le pied de la falaise à leur droite, où beaucoup de Canadiens étaient regroupés pour se protéger des tirs qui étaient si intenses que les éclats de roche frappés par les balles ont coupé les lacets d'une des bottes à mon père. Par réflexe, il s'est penché pour pas la perdre, puis c'est à ce moment qu'un obus a éclaté devant lui, tuant 3 de ses équipiers et le blessant à la tête et au bras. Il est resté au sol pendant un bon moment, et quand il a entendu marcher près de lui, il s'est tourné la tête et a vu un Allemand qui arrivait vers lui. Il était maintenant prisonnier, mais il était bien traité et soigné. Quelques jours après le raid, il a envoyé une lettre à ma grand-mère, qui lui est arrivée seulement après que les Allemands l'eurent lu et approuvé, pour pas que personne n'envoie des renseignements qui pourraient les nuire. Mais ma pauvre grand-mère a eu comme première nouvelle que son fils était porté disparu. Heureusement, quelque temps après, elle a reçu la nouvelle qu'il était vivant, mais fait prisonnier. Et finalement, en 1945, on lui faisait savoir sa libération. Pendant sa détention, au Stalag 8B de Lambsdorff en Haute-Silésie, il a été enchaîné pendant 18 mois et soumis à des travaux forcés. Les repas étaient assez maigres et il se rappelait avec dégoût le « maudit café ersatz puis du pain noir » servi quotidiennement. Une fois, pour empêcher une épidémie de typhus causée par les poux, les Allemands les ont fait sortir dans la cour tout nus et ils les ont lavés avec un boyau d'incendie. En plein hiver! En janvier 1945, les Allemands ont fait évacuer le camp pour se sauver des Russes qui arrivaient par la Pologne. Et là a commencé pour eux la marche de la mort, comme ils l'ont appelé. Ils ont marché pendant 4 mois au travers de la Pologne et le nord de l'Allemagne pour essayer de rejoindre Berlin, escortés par des nouveaux gardes, surtout des jeunes nazis fanatiques qui leur disaient qu'ils les fusilleraient tous plutôt que de les laisser partir. De fait, plusieurs prisonniers ont été abattus sans pitié parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre les autres. Mon père a même confié à ma mère qu'il avait mangé du veau crevé, des patates pour les cochons. Il a dormi dehors à moitié gelé avec seulement une petite couverte pour chaque prisonnier, tous collés les uns sur les autres pour se réchauffer. Même qu'à un moment donné, en passant près d'un village, ils ont vu des feux de ce qu'ils pensaient être du bois, mais en approchant, ils ont vu que c'était des corps humains que les Allemands brûlaient. Ils devaient être près d'un camp de concentration ou d'un ghetto juif. Quand ils ont finalement vu les Américains arriver et leurs gardiens s'enfuir, ils ont sauté de joie. Par contre, un des pires gardiens qu'ils ont eu, un jeune fanatique nazi qui avait même tué un gardien allemand de l'armée régulière parce qu'il trouvait trop ami avec les prisonniers, s'était caché dans une grange et des gars ont demandé des armes aux Américains pour le capturer. En entendant leur histoire sur ce nazi, un Américain leur a prêté son Colt 45 en leur disant qu'il méritait bien de se faire justice. Quelques minutes plus tard, le nazi était retrouvé dans un tas de foin et un des gars lui a ordonné d'ouvrir sa grande gueule encore une fois. Je pense que vous pouvez deviner la suite. La guerre s'est terminée quelques jours plus tard. Ils ont tous été rapatriés en Angleterre pour être soignés, pour ensuite revenir au Canada. Mon père a été démobilisé le 3 août 1945 et c'est là qu'il est revenu à la vie civile. Quelques temps plus tard, mon père s'est mis à faire des crises d'épilepsie, puis un jour il s'est effondré au travail. Il a été 28 jours dans le coma et a été soigné à l'hôpital des vétérans à Montréal. La cause était qu'un éclat de l'obus qui l'avait blessé à Dieppe était toujours dans son crâne et avait comprimé son cerveau au fil du temps. À la fin des années 70, mon père a reçu un paquet par la poste. C'était une plaque de remerciement de la France pour le sacrifice de tous les soldats canadiens à Dieppe. Plus tard, il a reçu la Croix de Dieppe. LA médaille qui lui fit dire avec émotion « Celle-là, je l'ai bien méritée ». Lors de son décès, le 14 janvier 1980, on en a convenu, ma famille et moi, qu'il la porterait pour toujours sur lui. Et c'est pour ça que j'ai pas de photo de cette précieuse médaille. Mon père est décédé en 1980, mais je garde un vif souvenir du peu qu'il nous ait confié de la guerre. J'ai les photos de quelques documents d'époque, 3 télégrammes, une lettre écrite à ma grand-mère peu après le raid alors qu'il était prisonnier, un certificat de remerciement décerné par la France et un souvenir de guerre. Une épée de parade allemande.
Merci à Joshua Pinette qui nous relate le témoignage que M. Marcel Castillo nous a laissé sur la page Facebook à la suite de l'épisode sur le débarquement de Dieppe. Tu as reçu aussi un témoignage d'une ancienne collègue qui a repris contact avec toi pour partager un témoignage.
Effectivement. En plus, c'est quelqu'un qui a une formation en histoire. C'est que j'étais super heureux de pouvoir discuter avec elle de ça.
Quelqu'un de ta race.
De mon espèce en voie d'extinction.
Oui, c'est ça.
Et ça, Émilie Bernacci va nous parler de son arrière-grand-père, Joachim Aubu. Donc, on va entendre un enregistrement qu'on a fait il y a quelques semaines de moi et Émilie. Dans la série « La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale », ce qui a été vraiment intéressant, pour moi qui était un acteur important avec Émilie Gagné, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont mentionné qu'il y avait des objets, qu'il y avait des photographies, qui me demandaient si je voulais avoir des numérisations. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et encore plus intense, il y a des gens qui m'ont parlé, qui connaissaient dans leur parenté, des gens qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, puis qui voulaient m'en parler. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai la chance de rencontrer Émilie Bernacci, qui, elle, justement, a dans ses ancêtres des gens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Émilie, avant de commencer, parle-moi un peu de ton parcours. Tu as étudié en histoire?
Oui, c'est ça. J'ai un baccalauréat en histoire que j'ai fait à l'Université Laval. Puis, j'étais vraiment contente, dans le fond, que tu m'invites à venir ici, parce qu'il faut dire que les jobs en histoire, c'est assez rare. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis venue te raconter une partie de l'histoire de deux hommes gaspésiens. Ces deux hommes, ils ont à vrai dire rien en commun, outre le fait qu'ils ont chacun participé, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale. Comme plusieurs Gaspésiens et Gaspésiennes, je savais qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui était parti outre-mer, mais j'avais jamais véritablement creusé plus loin jusqu'à ce que j'écoute ton podcast. Puis, avec du recul, ça me surprend parce que, comme qu'on vient de mentionner, j'ai quand même un baccalauréat en histoire. Mais on dirait des fois, on prend des choses pour acquis. Tu sais, oui, il est allé à la guerre, puis on s'imagine qu'il a suivi un peu le même récit général que les autres. Mais ce qu'on voit ou ce qu'on entend à travers ton podcast, c'est que chacun contribue de manière unique à cette grande narration qu'est la participation à la guerre. c'est plus juste des noms, mais c'est bien des personnes qui ont toutes un nom puis une histoire.
Puis là, tu vas nous dire, c'est quoi son nom?
C'est ça, je vais te donner un nom. C'est Joachim Aubu. Lui, pour remonter mon arbre, c'est le grand-père maternel à ma mère. Donc, la première qui a été victime à mes nombreuses questions, ça a été ma mère. Et comme plusieurs vétérans devenus grands-pères, la guerre faisait pas partie des choix de conversation numéro un avec leur petite fille. Alors là, j'ai remonté mon arbre d'une génération encore pour demander à la tante à ma mère, c'est-à-dire la fille à Joachim. Ma tante Suzanne, comme l'appelle ma mère, c'est une femme qui a toujours écrit beaucoup. Elle en est d'ailleurs à écrire la biographie de son père. C'est vraiment grâce à elle, dans le fond, que je peux venir te raconter l'histoire à son père aujourd'hui. Imagine-toi donc qu'elle m'a envoyé toutes les informations dont j'avais besoin par la poste. Elle m'a écrit l'histoire de son père, en plus de m'envoyer des photos et même des photocopies de documents émis par l'armée. Donc, ma tante Suzanne, on la remercie chaleureusement.
Un beau bonjour à Suzanne.
Bon, le moment est venu. Je vais te raconter l'histoire de Joachim Aubu.
Je suis prêt.
Il est né à Montréal en 1917 et il a été adopté dès sa naissance par Théodule Aubu, originaire de Saint-Godefroy, et Anne-Élisabeth Thériault, originaire de Hopetown. C'est probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui un Gaspésien d'adoption, littéralement. Pendant sa jeunesse, il va alterner entre Montréal et Hopetown et il va finalement avoir un salon de barbier avec son père. Puis, en 1940, il épouse Yvonne Englehart, originaire de Saint-Godefroy. Petite anecdote, Madame Yvonne travaillait comme aide-ménagère chez le juge Almond, le père du célèbre écrivain Paul Almond. Je sais pas si tu sais c'est qui.
Paul Almond, il a écrit une série de livres sur la Gaspésie qui ont été peu connus, mais qui sont vraiment, vraiment intéressants. C'est l'histoire d'un marin, justement, sur les navires des compagnies georgiaises, qui a été aussi cinéaste et qui a été le conjoint de l'actrice Geneviève Bugeaud. Quand même bien connue. C'est une actrice qui a été, si je me souviens bien, elle a été oscarisée une fois ou deux.
OK, quand même. Puis moi, j'ai rencontré Paul Almond à Fort Haldimand il y a quelques années. Fait que c'est quand même spécial là, qu'il y ait quelqu'un dans ma famille qui avait travaillé pour lui. Fait que là, on reprend ce qu'on était. En 1940, il se marie. Et en 1941, âgé de 24 ans, donc à mon âge, Joachim décide de s'enrôler volontairement. Évidemment, ce ne fut pas au grand bonheur de sa femme, qui avait déjà un enfant, Suzanne. Il n'a jamais dévoilé les raisons pour lesquelles il a décidé de s'enrôler.
Effectivement, c'est relativement rare que les gens qui n'ont pas des familles... J'ai eu quelques cas de Marlon qui, eux, leur famille était comme plus vieille un peu. Puis là, les monsieur étaient dans la quarantaine, puis ils s'enrôlaient. Tu pouvais t'enrôler à 40 ans, surprenamment.
Oui.
Et lui, il est quand même relativement jeune. Puis là, il va joindre le Royal 22e Régiment.
C'est ça. Puis en août 1942, à peine un mois avant la naissance de sa deuxième fille, il quitte pour l'Europe. Le voyage en mer dure 3 semaines quand même, il fallait avoir le pied marin. Une fois arrivé en Europe, les soldats sont envoyés en Angleterre où un choix parmi eux est fait. Le groupe dans lequel est Joachim passe par la France pour finalement être affecté à un camp militaire à Rimini en Italie. C'est là qu'ils font la campagne d'Italie. Joachim est allé sur les champs de bataille à titre de gunner, c'est-à-dire de soldat armé. On s'entend que la vie n'était pas rose sur les champs de bataille. En septembre 1944, les supérieurs de M. Aubu la rapportent disparue. J'ai d'ailleurs une photocopie du formulaire dactylographié intitulé « Questionnaire on a missing soldier or officer ». Ce rapport a été fait par le lieutenant-colonel Hanor du 22e régiment et il a été attesté par le capitaine Simard et le lieutenant C. Bouchard. Ce sont eux, dans le fond, qui l'ont vu pour la dernière fois. En résumé, le capitaine Simard a demandé à M. Aubu, qui était armé d'une carabine, d'escorter un prisonnier allemand à un campement canadien. M. Simard lui aurait recommandé d'être prudent parce que le prisonnier allemand semblait être très rusé. La dernière fois que le capitaine Bouchard a vu les deux hommes, il était à 10 pieds de lui. On dit que la visibilité était bonne. Il était 17 heures.
OK, c'est un compte rendu très...
Ouais, vraiment, là.
serré. Puis là, il est disparu.
C'est ça. Ils se sont jamais rendus au campement canadien. Il y a eu une battue de plusieurs jours pour retrouver Joachim, mais ce fut sans succès. Les Allemands étaient à environ 300 verges, là, pour donner une idée. Et selon le rapport, M. Aubu courait un grand risque, puisque le soldat allemand pouvait lui résister. Au final, Joachim fut conduit au camp allemand, puis fait prisonnier près de Munich. Son alimentation était composée de pain noir et d'eau. Il était entouré de bergers allemands, d'où est venue sa peur pour cette race de chiens. Joachim a aussi gardé une cicatrice de bottes capées sur le menton pendant plusieurs années. Mais, heureusement, il était doué pour les langues, ce qui lui a permis d'apprendre les rudiments de l'allemand et ainsi réagir plus rapidement aux ordres des gardiens pour éviter d'autres coups. Au final, il a passé 8 mois et demi prisonnier des Allemands dans ce camp.
Puis, il va être assez statique au niveau de Munich. Il se déplacera pas, là. Il va être...
Non, mais en tout cas, pas de ce que Suzanne m'a dit, là.
C'est dans les derniers lieux qui n'avaient pas été pris. Fait que ça fait... Il y a beaucoup de chances que ce soit ça qui soit arrivé.
Mm-hmm.
Parce que si les combats vont être très féroces dans le nord de l'Allemagne... Dans la partie sud, ça va être beaucoup plus statique parce que c'est très montagneux. Puis c'est beaucoup plus complexe d'attaquer par là, tandis qu'autour de Berlin, c'est beaucoup plus une plaine. Fait que c'est, il y a de bonnes chances que s'il y avait des transferts à Munich, il va rester le...
En mai 45, la fin de la guerre est déclarée et Joachim est retrouvé sain et sauf au Royaume-Uni. J'ai d'ailleurs la photocopie du télégraphe qui a été envoyé à sa femme pour lui annoncer que son mari avait été retrouvé. C'est quand même... Elle a été plusieurs mois là, sans nouvelles de son mari, avec 2 jeunes enfants à la maison. Fait que je peux pas imaginer là, la valeur que ce télégraphe-là a eu pour elle. Là.
Effectivement, parce que là, c'est ça, souvent, les soldats, ça va être... La plupart des témoignages que j'ai vus, c'était le même ratio, on pourrait dire, de pertes. Mais c'était la mère, parce qu'il était rarement marié. Fait que c'était à la mère, que même M. Fabien Sinette, l'épisode 6 ou 7, si vous l'avez pas écouté, allez écouter ça. Quand il parle que les gens ont peur de la postière.
Mm-hmm, ouais.
Parce que quand elle s'approche, c'est comme elle qui va apporter la lettre qui va dire que ton enfant est décédé. Fait que c'est ça, il y a... Là, c'est sur un... Puis c'est un bon laps de temps, c'est quand même...
Ouais.
Du moment où ce qui est porté disparu au...
Non, quand même une grande symbolique là, dans ce télégraphe-là. Suzanne raconte que son père a toujours refusé de raconter comment son enlèvement s'était passé. Elle raconte également que le retour au Canada de son père fut une journée mémorable pour toute la famille. Il était le héros de la journée, le héros de la famille. Elle m'a aussi envoyé une photo des 5 médailles que son père a reçues pour sa participation à la guerre.
Comme... Et le retour sera difficile comme...
Comme plusieurs... Des... Ouais, ouais. Elle se souvient que son père était de plus en plus nerveux, il faisait des cauchemars. Comme tu as déjà mentionné, là, le terme stress post-traumatique, ça n'existait pas.
Félicitations pour votre travail, bon retour dans la vie civile.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est sa femme, finalement, qui avait pris la décision que plus personne parlerait de la guerre dans la maison. Ça n'a pas été suffisant. Donc, Joachim a finalement consulté un médecin qui lui a prescrit un séjour à l'hôpital des vétérans où il a subi des chocs électriques.
Pour ceux qui ont écouté la série Alice Robbie, elle a subi justement parce qu'elle avait des problèmes, elle, au niveau émotionnel. Mm. Elle était probablement une personnalité bipolaire. Okay. Je m'excuse pour la parenthèse, là, mais c'est parce que c'est l'image que j'ai eue quand t'as parlé de... Puis oui, fût-ce une époque peu lointaine où on pensait que envoyer des doses massives d'électricité dans le corps humain pouvait servir à réparer.
Mm-hmm.
Heureusement, beaucoup moins actuellement.
C'est ça. Mais tu vois, Suzanne raconte qu'après ce traitement, son père y allait beaucoup mieux. Il a repris son métier de barbier. Il est redevenu joyeux. Elle dit qu'elle a plusieurs beaux souvenirs d'enfance avec son père. Selon elle, c'était le bout en train dans une soirée. Il aimait rire, il aimait faire des blagues. Et apparemment, il chantait comme Jean Clément, un chanteur de charme des années 30. Suzanne termine sa lettre en me disant « Je suis très fière de mon père. C'était un homme courageux et sa vie n'a pas été ordinaire. Il mérite qu'on se souvienne de lui. »
Et comme c'est sa chanson favorite, c'était la chanson, on va écouter un extrait de Le plus beau tango du monde de Jean Clément.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui danser dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas.
Dans ton introduction, on a parlé que tu parlais de deux personnes.
Mm-hmm.
Tu parlais de quelqu'un qui était parent avec toi,
oui.
Puis une personne qui n'est pas parente avec toi, mais qui a quand même l'élément important dans notre série.
C'est le Gaspésien.
Eh oui!
Donc là, on va quitter la baie des Chaleurs pour nous retrouver par ici, comme on dit, précisément à Fort Haldimand en 2017. Oui, j'ai bien dit en 2017, mais tu vas voir, Félix, ça suit mes affaires. À chaque année, la communauté anglophone de Gaspé organise les Pioneer Days, lors desquels j'avais d'ailleurs rencontré l'auteur Paul Allman.
Qu'on a parlé précédemment.
Oui, c'est ça. Lors de cet événement, il y a toujours un encan silencieux. À l'édition de 2017, imagine-toi donc que parmi tous les objets, il y avait une épinglette originale du parti nazi. Évidemment, ça me l'apprenait. Pour la participation à ce podcast-là, j'ai fait des recherches pour en connaître plus sur l'histoire cachée derrière cette épinglette. J'ai parlé avec Stella Alexander, celle qui l'avait mise aux enchères. L'épinglette appartenait à son père, Nelson Alexander. Lui, il venait de Sandy Beach, plus précisément Alexander's Hill. C'est la colline où l'église, dans le fond, lui puis tous ses frères, ils vivaient là.
OK. L'église, on parle bien pour les gens de Gaspé. L'église, quand on monte...
Oui, quand on monte la colline...
Y a puis une... c'est ça, puis c'est, elle après, est vraiment pas apparente. On voit surtout l'affiche, finalement. De...
Mm-hmm. Okay. C'est ça. Sa fille Stella, elle avait trouvé l'épinglette dans les choses de son père à son décès en 2007. C'était dans une vieille boîte de conserve avec des montres et autres choses que Nelson avait collectionnées au fil des ans. Stella, elle savait même pas que son père avait ça, donc elle sait pas vraiment où il l'a pris. Selon elle, ça pourrait être d'un des voyages de son père qui naviguait pour la marine marchande canadienne. Ou peut-être d'un de ses frères qui avait fait la guerre, plus particulièrement celui qui a été prisonnier de guerre, Elmer.
Elmer Alexander?
Oui, c'est ça, un autre prisonnier de guerre. Nelson, lui, il s'était enrôlé, mais sa mère l'avait sorti de l'armée parce qu'il avait pas l'âge. Il y en a beaucoup qui s'enrôlaient très jeunes, mais la mère de Nelson, elle avait pas laissé ça passer. Faut dire qu'elle avait déjà 3 ou 5 enfants là, qui étaient enrôlés.
Okay, elle considérait que sa famille avait déjà assez fourni à l'effort de guerre.
Oui, probablement.
C'est bon. Judicieux.
Oui. Stella, qui a aujourd'hui 64 ans, elle me disait que les gens parlaient pas de la guerre à leur retour, comme tu as déjà mentionné. Elle disait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'elle aurait aimé demander à ses parents, mais elle n'osait pas, puis aujourd'hui, elle avait comme certains regrets par rapport à ça. De mon côté, j'ai fait quelques recherches pour en savoir plus. C'est une épinglette de membre standard du parti nazi. D'un côté, on a la croix gammée nazie au centre. Le contour est rouge et on peut y lire National Socialistische DAP. En français, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, donc le NSDAP ou Parti Nazi, simplement. À l'endos, on peut y lire M109 et RZM. Le RZM, c'était le bureau de contrôle de la qualité du parti nazi. Toutes les entreprises souhaitant fabriquer des articles pour les organisations du parti devaient demander un numéro RZM. Si une entreprise répondait pas aux attentes de qualité, elle pouvait perdre son numéro RZM et donc son autorisation à fabriquer ses articles. Inutile de dire que la qualité était strictement contrôlée par le bureau RZM.
Pour les auditeurs, moi, dans ma tête, j'ai l'image du film La Liste Schindler. Quand Oscar Schindler reprend, puis il dit « J'aurais pu vendre mon épinglette », c'est l'épinglette du parti nazi qui devait être à peu près similaire pour que les gens aient une image de l'épinglette.
Puis, à l'endos, il y avait aussi l'inscription M1109. Puis, avec ça, j'ai pu savoir où l'épinglette avait été fabriquée et son niveau de rareté. Sur une échelle allant de 1 à 10, 1 étant très, très rare et 10 étant très commun, elle est classée à 2. Donc, très rare à trouver. C'est quand même pas pire.
Puis Puis il y avait ça à Gaspé.
Oui, à Gaspé, un encan silencieux. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Elle a été fabriquée à Dresde, une ville dans la partie est de l'Allemagne. En fait, c'est la capitale de la Saxe, un État allemand. Elle a été fabriquée par Glaser & Son, une entreprise familiale fondée en 1868, qui en est maintenant à sa cinquième génération. C'est assez particulier qu'à un moment de leur histoire, ils étaient concentrés à fabriquer des épinglettes de membres du parti nazi et qu'aujourd'hui, ils fabriquent des souvenirs pour tout un chacun.
Effectivement, c'est très sympathique comme conclusion. C'est extrêmement intéressant. Je te remercie infiniment, Émilie, d'être venue nous parler de ta parenté et aussi, finalement, d'une espèce de voyage à travers l'histoire que tu as fait dans un moment où ce que tu t'en attendais vraiment
non,
pas.
Vraiment pas.
Quand tu étais au baccalauréat en histoire, est-ce que c'est de quoi qui était, tu étais versé de la Deuxième Guerre mondiale ou tu étais dans un champ?
Oui, j'ai eu un cours là, spécifiquement sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'Europe de l'Est. Fait que d'un certain côté, oui, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, mais certainement pas de la Deuxième Guerre mondiale en Gaspésie. Là.
Non, on a eu peu de gens. Il y a quand même une néo-gaspésienne qui est mon ami Dasha.
Okay.
Son papa était dans la résistance. Son grand-père était dans la résistance tchèque, si je me souviens bien.
Pour vrai?
Puis il a une série de médailles. Il doit avoir fait au moins 4 ou 5 batailles majeures de l'armée rouge avec l'armée rouge, puis il avait joué après l'invasion nazie. Mais ça, peut-être qu'on aura la chance d'avoir Dasha qui nous en parlera.
J'adorerais ça.
Ouais. Fait que je te remercie infiniment, Émilie.
Merci
C'est
à toi.
Vraiment gentil d'être venue. Puis avec tout ce mouvement-là, on peut préserver quelque chose qui... Cette partie de l'histoire gaspésienne qui est tellement nébuleuse avec une espèce de... Il y a comme tout le temps une espèce de voile ou de brume sur l'histoire de la participation aux guerres. Parce que les gens ont tellement préservé le souvenir pour pas en parler avec les gens. Puis que maintenant, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir assez âgés... Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand ils dépassent un seuil dans le temps où il dit « si j'en parle pas, il n'y a personne qui va en parler
».
Ça, c'est vraiment intéressant. Puis qu'il y a des gens comme ta grande-tante Suzanne qui a colligé ces données-là.
Ouais.
Fait qu'on la salue et on la remercie beaucoup. Mm-hmm. Et on te remercie, toi, Émilie Bernacchi.
Merci.
Merci pour ta participation.
Alors, c'est un extrait d'un enregistrement que tu as fait avec Émilie Bernacchi, qui est l'arrière-petite-fille de Joachim Aubut.
C'est un autre témoignage extrêmement intéressant. Lui aussi, il a un effet de prisonnier. Lui aussi, il y a des gens qui ne savaient pas les nouvelles de la famille, s'il était encore, s'il était vivant ou pas. Imaginez toute la difficulté pour les parents et les gens autour d'eux de subir des, pas des pressions, mais des stress induits.
La force que ça prend à l'intérieur de soi de continuer de vivre normalement malgré tout à chaque jour, pas évident.
Et pour terminer, on a fait un suivi sur un courriel que nous avions reçu ici.
Oui, il y a quelqu'un qui nous a écrit à info@commercialradio-gaspésie. Je trouvais ça intéressant, donc je t'ai partagé l'envoi, même si ce n'était pas un Gaspésien.
L'intérêt, c'est que lui connaît des gens qui ont des lettres de soldats gaspésiens. Mais en discutant avec, il s'est mis à parler, moi aussi, dans ma famille, il y a eu des militaires. Oui, c'est intéressant. Il dit, je pense que tu as une ou deux histoires que tu aimerais. Puis juste parce qu'il a été l'entremetteur, je pense que ça vaut la peine de parler de ces gens-là, de sa famille, parce que c'est vraiment sympathique.
Parce que c'est quand même des histoires qui sont très intéressantes quand on s'intéresse aux personnages qui ont été marquants dans la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et aussi pour l'Allemagne.
Tout à fait. Donc, monsieur, c'est l'histoire ici du docteur Alfred Fraser Crook, qui était diplômé en médecine de l'Université Queen's de Belfast, lui-même né à Londonderry, en Irlande du Nord. Il avait étudié la chirurgie à l'Université d'Édimbourg et l'oncologie à Manchester. Il va, après la guerre, il va venir s'installer à Ottawa. Il va passer toute sa carrière comme médecin à l'hôpital d'Ottawa. Il est membre du Royal Army Medical Corps, tout comme M. Émile Melançon, dont on a déjà parlé dans le...
Oui, que Marie-Pierre Arthur nous a parlé sur, dans un épisode précédent.
Donc, lui, il devient commando en Écosse avant de se rendre en Afrique du Nord. Il y a peu de Gaspésiens qui ont fait l'Afrique du Nord parce que c'était au début. Puis le peu de soldats qui étaient versés à l'époque, eux, vont être envoyés vers Hong Kong, réécouter les épisodes sur Hong Kong.
Oui, c'est ça.
Donc, il est prêté à la Légion étrangère française. Fait que c'est là qu'il apprend le français. Et après la bataille de Bir Hakeim, en Afrique du Nord, il va rencontrer le général et qui va devenir maréchal Erwin Rommel, qui est un des généraux allemands peut-être les plus connus, le renard du désert, selon son nom, son surnom. Il a été conservé dans l'historiographie comme, même si c'était un militaire de très haut rang, il était peu associé aux nazis.
Il avait des valeurs plus humaines que le régime.
C'était un militaire de profession. Actuellement, il y a comme une remise en question de ça, mais l'anecdote qui m'a été contée dans la famille Crook, c'est que après la bataille de Bir Hakeim, les troupes allemandes prennent la ville et ils vont, comme les troupes anglaises, vont se reculer, vont fuir. Il y a les hôpitaux de campagne. Les hôpitaux de campagne, là, on parle d'une grande tente.
Avec plein de gens vulnérables.
Exactement. Donc, M. Crook est là, Dr. Crook. Erwin Rommel, le général, rentre dans l'hôpital de campagne, le rencontre, lui dit par son interprète, vous êtes le chef de service, il dit oui. Il dit, je vais poster deux soldats devant votre hôpital de campagne et tant que mes troupes ne seront pas tous passées, ils vont rester là, ils vont vous protéger. Et quand mes troupes vont être passées, les deux gardes que je vous laisse vont suivre les autres troupes, ils vont partir et vous n'avez pas à vous inquiéter.
Un code d'honneur là-dedans.
Tellement que le Dr. Crook a contacté le fils de Rommel, qui s'appelait Manfred Rommel, qui était maire de la ville de Stuttgart. Pour les amateurs automobiles, c'est là qu'ils font les Porsche. Et il lui a mentionné cette histoire pour lui dire, peu importe ce qu'il dit sur votre père, moi personnellement, c'est l'expérience que j'ai eue avec. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une très grande humanité dans cet homme. Puis le fils de Rommel de lui répondre, si vous venez à Stuttgart, vous êtes le bienvenu, je vous ferai faire le tour de la ville avec grand plaisir.
Mais ça, c'est un très bon exemple de perception aussi. Autant dans les armées adverses que dans l'armée amie pour nous. Bon, c'est une question de point de vue. Il y a des personnes qui font des choses discutables, d'autres qui en font des bonnes, mais il ne peut pas juste avoir juste du noir dans ces histoires-là.
Il y a des gens qui savent préserver leur humanité dans des situations inhumaines.
Oui, et d'autres qui n'avaient peut-être pas le choix non plus de faire certains gestes sous la gouverne nazie.
Autre anecdote savoureuse. Il y a trois généraux durant les mêmes batailles. Quand le retour des troupes anglaises, puis ils vont capturer beaucoup, beaucoup d'Italiens. Parce qu'il y a comme 100, ils font une poche en Afrique du Nord de 110 000 soldats italiens. Il y a trois généraux qui arrivent pour se rendre encore au Dr. Crook. Trois généraux italiens. Puis là, il fait, je suis pas assez haut gradé pour vous prendre prisonnier. J'ai pas vraiment le temps. Fait qu'il a envoyé un aide de camp chercher de l'essence, puis ils ont envoyé. Il dit, roulez pendant une période de temps avec votre Jeep, puis il dit, vous allez trouver d'autres soldats, puis il dit, rendez-vous à eux autres. Il dit, moi, j'ai pas le temps de faire ça.
Fallait quand même avoir confiance aux gens.
Au même moment, il y a une capitaine qui s'appelle Audrey May White, qui va devenir la femme de M. Crook, qui, elle, est en charge des prisonniers italiens. C'est près de 3000 prisonniers italiens qui sont stationnés en Angleterre et c'est elle qui s'occupe du camp où ils sont installés. Beaucoup de ces prisonniers-là vont rester en Angleterre après la fin de la guerre puis ils vont ouvrir des restaurants italiens. Mais lorsque M. Crook et Mme White vont se marier, il y aura plein de gens de ces prisonniers-là qui vont lui faire un super buffet pour leur mariage.
Ça veut dire que les prisonniers ont été quand même très bien traités par Mme Crook?
Effectivement. Sinon, il n'aurait pas gardé un lien aussi familier.
Ou sinon, il y aurait peut-être eu du poison dans la bouffe.
Oui. Et la famille Crook passera, si j'ai entendu parler de la famille, des superbes vacances à Percé en 1971. Il était venu en Gaspésie. Mmh.
Intéressant que quelqu'un qui ne vit pas en Gaspésie, qui a seulement visité la Gaspésie quand il était jeune, découvre le podcast La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale et nous raconte ces petits trésors d'anecdotes-là.
Je me considère tellement chanceux.
Et même si la série tire à sa fin, c'est quand même possible de nous envoyer des anecdotes parce que t'es un féru d'histoire, t'aimes ça recevoir toutes ces anecdotes-là et qui sait, peut-être qu'on pourra au fil du temps faire des épisodes bonus pour ajouter à tout ça.
Je ne pourrais laisser les auditeurs sans vraiment... J'ai tellement parlé de M. Émile de Seller. Puis on est
devenu un de nos préférés sur le podcast.
Donc, effectivement, c'est ça, il va y avoir un épisode bonus dans lequel on va parler de M. Émile de Seller. On va parler aussi de M. Émilien Dufresne, du temps de sa captivité. C'est vraiment intéressant, avec quelqu'un de sa famille. Et on espère vraiment beaucoup avoir les lettres du soldat gaspésien. Puis ça va être l'élément de surprise de cet épisode bonus.
À venir d'ici quelque peu. Et sinon, en ce moment, petit scoop, si vous nous écoutez dans le futur, c'est déjà disponible. Si vous nous écoutez en temps réel, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Mais une autre série podcast, nous mettant en vedette, mais surtout toi, Félix, et tes talents d'historien, qui s'appelle « Sur les traces anglo-normandes », qui va être un podcast très savoureux.
Si votre nom de famille, c'est Le Seller, Le Grêlé, Le Boutillier, Perret, vous serez en vedette dans ce podcast.
Félix Fournier, merci beaucoup.
Merci à toi, Émilie. Je voudrais te remercier personnellement pour tout le travail que tu as fait durant, puis comment tu m'as accompagné dans mes insécurités chroniques. Ce fut vraiment apprécié. Je voudrais vraiment te remercier toi, Martin Roussy, pour avoir été l'instigateur, Dave Sinotte, pour avoir continué à croire dans le projet et avoir relancé le matériel, Monsieur Tom Eden, d'avoir été si généreux de son temps dans ce podcast et d'avoir apporté beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires.
Et d'avoir été un fidèle auditeur.
Oui, aussi. Monsieur Fabien Sinette, avec toutes ses connaissances. Madame Diane Sinette, la famille Le Seller, que ce soit Martin ou Rodrigue. Madame Gisèle Melançon, Marie-Pierre Arthur, tous les gens qui ont participé. Félix Houde, j'en oublie sûrement. Mais...
nos invités d'aujourd'hui.
Exactement. Émilie Bernacci. Et
Monsieur Marcel Castillou qui nous a fait témoignage également.
Exactement. Ce fut j'étais extrêmement privilégié d'avoir la chance de faire ce voyage-là à travers l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était je m'étais lancé là-dedans très naïvement et j'ai tellement appris. Je suis tellement heureux de ça.
J'ai tellement appris beaucoup et j'ai surtout appris sur la nature humaine, moi, pendant ce podcast-là, sur les Gaspésiens, oui, mais sur le beau que l'on peut trouver même dans une guerre, parce que tu as su justement nous sortir avec brio des histoires, oui, qui étaient parfois tristes, mais qui avaient quand même beaucoup d'espoir au travers. Alors, Félix Fournier, je le dis souvent, mon historien préféré, n'en déplaise aux autres. Merci beaucoup.
Merci à toi, Émilie.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section « Podcast ».